Voilà le grand thème qui va me lancer dans mon message, parce que je suis de plus en plus convaincu que nous nous tenons sur les épaules des géants qui nous ont précédés dans notre foi chrétienne, et qu'il faut apprendre à profiter de la sagesse qu'ils ont reçue de Dieu, parce que vous savez, nous ne réinventons pas le christianisme à chaque génération. On monte sur le dos des gens qui nous précèdent. Donc, Dieu nous a laissé une mine d'informations et de sagesse dans les écrits de chrétiens qui nous ont précédés. C'est pourquoi je suis presque toujours en train de lire un livre écrit par une sœur ou un frère qui est déjà rentré auprès du Seigneur. Et souvent, ça fait du bien de sortir de notre génération pour voir la perspective des gens, parce que moi j'ai découvert que les années 1600, les puritains en anglais avaient compris des choses sur la vie chrétienne que nous n'avons pas encore comprises. Et John Owen et d'autres, juste pour dire que ça, c'est là pour nous élargir. Et ce qui m'a repoussé à réfléchir à ce thème, ce sont des attentats récents. Ça m'a frappé que, d'une certaine manière, la vie ne sera jamais plus de même après ça. Je dois admettre que je peux maintenant dire que je connais des individus qui ont été victimes d'un attentat terroriste. Il y avait un couple chrétien de Winston et qui était là, qui était perdu le Louis. En tout cas, ils ont survécu, mais ils étaient là. Ils sont réveillés à voir des corps, des morceaux de corps partout autour d'eux. Et nous nous sentons de plus en plus vulnérables devant ce genre de réalité, comme Gaston a dit tantôt, en proie aux forces qui semblent dominer de plus en plus, n'est-ce pas? Donc je vais parler de deux, trois personnes sur les épaules sur lesquelles on peut monter ce matin. Et une des personnes que je veux vous présenter ce matin est peut-être plus pertinente que jamais, car elle parle du rôle de Dieu dans la vie de ses enfants, et ceci au milieu d'un monde en désarroi. Un monde où le mal semble gagner et dans lequel de plus en plus de gens sont victimes. Ça me frappe les nouvelles à tous les jours. Je le suis parce que je pense qu'il faut pas mettre des œillères, mais c'est horreur des petits détails aux États-Unis, un enfant de 5 ans qui tue sa petite sœur parce qu'il a trouvé le revolver. Horreur après horreur. Donc, l'auteur que je vais vous présenter ce matin s'appelle Simone Veil. À ne pas confondre avec le Simone Veil qui était une femme politique et académicienne française. C'est pas la même, leur nom se prononce de la même manière, mais l'autre se écrit avec un V. Donc j'ai décidé moi-même, grâce à une citation de cette dame-là, que je vais partir tantôt, à discuter qui est Dieu dans ce genre de contexte où tout semble virer dans les mauvaises directions. Mais avant de parler de ça, je vais vous présenter un petit peu Simone Veil. Elle est née en 1909 dans une famille d'origine juive, donc et agnostique, donc non-croyante. À 26 ans, elle a été une étudiante en philosophie à la Sorbonne et elle a eu des contacts avec Simone de Beauvoir. Donc c'était dans la même période, qui n'avait qu'un an de plus que Simone Veil. Donc elles étaient du même âge. Et sur Simone de Beauvoir, une Française qui était quoi, écrivaine, existentialiste, philosophe, féministe, marxiste, assez radicale. Veil a dit ceci, elle dit, « Simone de Beauvoir m'intriguait à cause de sa réputation d'intelligence et de son accoutrement bizarre. Une grande famine a dévasté la Chine et l'on m'avait raconté qu'en apprenant cette nouvelle, Simone de Beauvoir avait sangloté. Ses larmes forcèrent mon respect encore plus que ses dons philosophiques, disait Simone Veil. Mais Simone Veil est aussi devenue une femme intensément sensibilisée aux horreurs de ce monde. Et elle vivait de façon cohérente avec ses convictions. C'est ça qui capte mon attention. C'était pas juste des paroles en l'air, c'était une femme qui vivait en conséquence. Dans la période où elle était professeure dans plusieurs différents lycées parisiens, Simone Veil donnait une grande partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Cette citation, « Décider de vivre avec 5 francs par jour », excusez, mes yeux ne trouvent plus parfois. OK. « Décider de vivre avec 5 fois par jour, comme les chômeurs depuis, elle sacrifiait tout le reste de ses émoluments de professeur à la caisse de solidarité. » C'est une femme qui vivait en concédance avec ses convictions. Une femme de conviction. Mais aussi une femme avec une âme troublée. Simone Veil se rapproche peu à peu du christianisme. Selon ses écrits, elle éprouve la présence du Christ à partir de l'année 1938 et elle entre en contact avec des prêtres et des religieux afin de leur poser des questions sur la foi de l'Église catholique. Donc, même si elle était agnostique, élevée, tendance très gauchiste, elle s'est approchée des prêtres pour poser des questions. Elle avait des questions spirituelles. Et le père Joseph-Marie Parrain, religieux dominicain, l'accompagnera et aura un rôle important dans sa vie quand elle sera marquée entre 40 et 42. Et en 42, en seulement quelques semaines, elle écrit des essais et les articles qui, une fois rassemblés, paraîtront dans les livres intitulés « Attente de Dieu » et « Pensées sur l'amour de Dieu ». Mais elle reste très discrète dans son évolution spirituelle. Ce n'est qu'après sa mort à Londres à l'âge de 34 ans que ses amis découvriront la profondeur inouïe de sa vie spirituelle. Voici la citation de Simone Veil qui m'a fait la découvrir. C'est en lisant ça, j'ai fait les recherches pour dire qui est cette dame qui a dit ça. Donc, on va tourner autour de cette citation que je vous mets maintenant. Simone Veil a dit « La grandeur extraordinaire du christianisme se trouve dans le fait qu'il ne cherche pas un remède surnaturel à la souffrance, mais plutôt une utilisation surnaturelle de la souffrance. » Vous voyez ce qu'elle veut dire? On va en parler un petit peu. Parce que cette citation souligne deux perspectives très contrastantes. Les adeptes de la première perspective voient Dieu comme un moyen de rendre meilleure notre vie ici-bas, en éliminant ou au moins en réduisant les choses qui provoquent la souffrance. Ils voient ça, ça c'est leur perspective principale de la chrétienne, du christianisme. Donc chez le chrétien qui partage cette perspective, quand les choses vont de travers, disons qu'un ami proche ou quelqu'un de la famille est diagnostiqué d'un cancer. La première tendance de ce premier groupe est de crier à Dieu en disant quelque chose comme « Ô Dieu, nous savons que tu nous aimes et nous savons que tu es tout-puissant. Alors nous te sollicitons par le sang de Jésus avec une foi sincère, nous réclamons la guérison de notre fils. » C'est logique qu'on prierait comme ça si on a cette perspective parce que le rôle de Dieu, c'est de régler nos problèmes. Voyez-vous un problème avec une telle prière? Quand nous prions comme ça, nous mettons en évidence que nous présumons savoir ce qui serait le meilleur résultat, n'est-ce pas? Un remède surnaturel à la souffrance. On le prend pour acquis. Mais basé sur quels critères est-ce qu'on arrive à cette conclusion? Notre perspective que si Dieu nous aime vraiment, la vie devrait fonctionner d'une certaine manière. Vous me suivez? C'est ça la logique. Et donc, on prie en conséquence. Seigneur, puisque tu es Dieu, tout puissant, et puisque tu nous aimes, règle le problème. Et si après avoir prié une telle prière, Dieu nous exauce, que disons-nous après? Moi, j'ai trouvé ça assez conséquent. On dit, gloire à Dieu, ah, qu'il est bon. N'est-ce pas? Ce qui m'a toujours confondu un petit peu devant une telle réponse est ceci. Quelle serait notre réponse si notre prière n'avait pas été exaucée? Est-ce qu'on dit, pas de gloire à Dieu, oh que tu es mauvais? Vous me suivez? Dieu est bon parce qu'il le fait, et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on conclut? On reste silencieux, mais ça nous pousse parfois dans une direction comme ça. C'est quoi le contraire de cela? Il y a quelques années déjà que les circonstances les circonstances dans la vie d'un couple que mon épouse et moi aimons beaucoup nous ont fait lutter avec beaucoup de difficultés devant la mise en évidence du contrat souligné par la citation de Simone Veil. Ce sont des amis que Judith et moi connaissions et apprécions, ça fait déjà 30-40 ans. Nous avons connu deux de leurs enfants dès leur enfance. Leur premier enfant avait été tué dans un accident d'auto en Europe lors d'un voyage une fois, avant qu'on fasse leur connaissance. Mais il y a à peu près 6 ou 7 ans maintenant que les médecins avaient trouvé un cancer au côlon de leur fils, leur seul fils, qui avait à ce moment-là 36 ans et qui était lui-même papa de 3 petits garçons. Quelle réalité horrible pour n'importe qui. On l'a tous, presque si on vit assez longtemps, on a tous vécu soit un ami, soit de la famille, quelque chose comme ça. Moi, j'ai vécu ça trop de fois. Et je peux vous garantir que si c'était mon fils, je prierais sans cesse à Dieu et avec beaucoup de passion. Et vous aussi, j'imagine. Mais j'espère que mes prières ne seraient pas dans la première perspective dont parle Simone Veil. Ce qui nous troublait chez nos amis, et on les a suivis, on gardait le contact, c'est que c'était leur conviction, pas le moindrement masquée, que Dieu était obligé de guérir leur fils. Et que même le fait de douter que cela allait arriver mettait la guérison en jeu. Donc il fallait être positif, croire, ne jamais imaginer que ça soit autrement. Et devant la menace de mort de leur fils, dans cette même période, ils faisaient des efforts monstres pour rallier des milliers de gens à travers l'Internet à prier que leur fils soit guéri. Pourquoi un tel effort, je me demande. Ils ont dit, partout dans le monde, la maman m'a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du monde autant de gens qui priaient pour un individu. Et que, dans ces conditions, Dieu ne pourrait surtout pas faire autrement de ce qu'il demandait. Parce qu'ils avaient des dizaines de milliers de gens qui priaient. Dans la même période, ils vivaient en Amérique, ils cherchaient constamment des gens qui avaient le don de guérison. Ils traversaient le continent pour rencontrer ces individus pour qu'ils puissent faire leur magie sur leur fils. Et lors du culte de leur église, le dimanche, à presque tous les dimanches, des individus s'approchaient d'eux, réclamant avoir eu une parole de Dieu pour affirmer qu'en effet, leur fils allait être guéri. À part la théologie, en mon avis, tordue et dangereuse, pour la foi des chrétiens impliqués, comme je vais vous montrer plus tard, ce qui me dérangeait le plus à travers tout ça, je crois, c'était l'image de Dieu qui était représentée par toute cette frénésie sans cesse. Ils couvraient plus de gens, plus. C'était un temps plein pour eux. Le désir de voir son fils continuer, je le comprends, mais il y a une différence. J'ai dit, quelle sorte de Dieu est-ce que ça met en évidence? C'était un peu comme les prêtres de Baal, en 1 roi 18, qui priaient que leur Dieu brûle l'Holocauste. Vous connaissez le passage? Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant, « Criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé. » Ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage, peut-être il dort et il faut le réveiller. Dont les prophètes crièrent plus fort selon leur coutume, ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps pour avoir la réponse de Dieu. Donc les prophètes de Baal se sentaient obligés de convaincre Dieu de réagir en leur faveur. Et ils sont allés loin. Quel genre de Dieu exige une telle performance? Ah, seulement 2000 personnes qui prient? Non, pas encore, pas assez. Ah, 10 000, là, ça commence à m'intéresser. Quelle image! Vous êtes d'accord avec moi que c'est une image tordue de Dieu? Est-ce mauvais de crier à Dieu lorsqu'une tragédie se produit. Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Ainsi, au cours de toute sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Jésus criait longtemps, parfois pendant toutes les nuits. Mais on voit par la façon que Jésus a prié que sa priorité à lui, ce qui primait pour lui, n'était pas d'éviter à tout prix la souffrance. Comment voyons-nous cela? Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Vous voyez la différence? Il priait, il demandait, mais toujours avec l'idée que ta volonté, pas ma volonté, parce que je ne suis pas Dieu et je ne sais pas ce qui est dans ton plan parfait. Donc Jésus savait que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite, et il ne voulait pas passer à côté de cette volonté-là, malgré le coût qu'il devait payer. Regardons maintenant la deuxième façon de voir les souffrances dans la citation de Simone Veil, voilà la citation de nouveau. « Je suis parfois abasourdi par certains chrétiens, leur réaction devant des situations vraiment horribles. Et cela selon la deuxième option de Simone Veil, pas la première. Et leurs exemples m'aident à voir combien j'ai du chemin à faire dans ce domaine-là, quand la vie ne va pas comme je veux. Ça fait sortir quelque chose en nous, avez-vous remarqué quand même? Mais j'ai deux exemples que j'aimerais mentionner de géants sur les épaules duquel on peut se mettre. La première est une femme qui est toujours en vie, et vous la connaissez peut-être, elle est bien connue en Amérique, Johnny Erickson Tada. Je pense qu'à 9 ans ou à 19 ans, elle a plongé, elle s'est cassée le cou, elle est quadriplégique depuis ce temps-là. Elle bouge ses lèvres mieux que moi. Elle peut bouger la tête, mais pas le reste. Et elle est devenue chrétienne, ou elle a été chrétienne, mais ils sont passés par tout ce système en essayant de voir Dieu, parce que moi, je le dis, on a une fille en chaise roulante, et on a dit, Seigneur, si tu veux, s'il te plaît, mais il n'a pas voulu. Mais elle est vraiment devenue une personne, et je vais vous montrer un peu par une lettre, pour montrer le contraste de la manière que Johnny a fait face aux tragédies de sa vie. Et juste pour vous dire, après je ne sais pas combien d'années de paralysie, dernièrement elle a eu un cancer, ils ont enlevé les deux seins en plus. Et elle écrit à ce propos, elle dit « Vous avez toujours été si fidèle dans vos prières pour Ken et moi, surtout pour ma santé, mais aujourd'hui je vous transmets un nouveau souci, j'ai un cancer au sein. Vous m'avez souvent entendu dire que nos afflictions viennent de la main de notre Dieu et que qui est souverain et plein de sagesse. » Et même si le cancer me met face à des réalités que je n'ai pas encore connues, je suis content de recevoir de Dieu tout ce qu'il considère bon pour moi. Ouf. C'est vrai que c'est alarmant, mais soyez assurés que Ken et moi sont tout à fait convaincus que Dieu va utiliser cette maladie pour augmenter notre foi, pour stimuler notre espérance et pour renforcer notre témoignage. Puis elle termine avec ce passage. « Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme, car mon espoir vient de lui. Oui, il est mon rocher et mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. » Oui, mon espoir est en lui, mais pas dans le sens qu'il va faire tout ce que je veux pour que ma vie coule douce. La compréhension du christianisme de Johnny ne lui fait pas prendre pour acquis que la vie devrait marcher sur les roulettes. Ça fait pas partie de sa théologie. Elle semble plutôt convaincue que Dieu va lui faire du bien, et cela à travers des réalités parfois horribles. Elle croit à l'utilisation surnaturelle de Dieu et ce qu'il va accomplir par la souffrance. Pour utiliser le langage de Simone Veil. Et si vous aviez eu le privilège de connaître cette dame, vous verrez que c'est pas juste un petit devenir chrétien, c'est profond. On l'a vu deux fois en conférence en Amérique, on a amené notre fille parce que ça l'a inspiré de voir une autre personne qui vit sa vie en tant qu'handicapée. Moi, je suis convaincu qu'une des raisons pourquoi nous cherchons tant à convaincre Dieu de nous mettre à l'abri des tragédies et de la souffrance, c'est que nous avons oublié ce que Dieu est en train de poursuivre dans la vie des siens, maintenant, ici-bas. Voilà l'importance de nos points de repère théologiques. Alors, que poursuit Dieu dans ta vie, qui peut inclure la présence de paralysie, de cancer et de mort d'un enfant et d'autres souffrances? Que poursuit-il? Quelqu'un a dit que si le job de Dieu est de nous mettre à l'abri des tragédies et de la souffrance, il n'est pas très efficace dans son travail. N'est-ce pas? Si c'est ce qu'il devait faire, il ne le fait pas très bien. En contraste, Larry Crabb, bon ami à moi, décrit le travail de Dieu dans notre vie de cette façon. Et j'aime cette petite explication. Il dit, par des bénédictions et des souffrances providentielles que nous ne pouvons ni prédire ni contrôler, l'Esprit de Dieu est en train de nous détacher de toute source de vie autre que celle de connaître Dieu et de vivre pour son plaisir. C'est ça qu'il est en train de faire dans nos vies, de nous sevrer de toutes nos idoles, de toutes les façons qu'on a appris à survivre sans être obligé de dépendre de lui. Et on est tellement, au Québec, on dirait épais, dense, que ça prend des choses pour nous réveiller, pour découvrir nos idoles, qui toujours ont l'intention de faire marcher ma vie comme je veux. Vous savez que ce monde n'est pas notre chez-soi, c'est plutôt le lieu de notre préparation, notre transformation, notre formation. On est dans l'atelier de travail, on n'est pas rendu chez nous. Eugene Peterson est un auteur, j'ai fait quelques livres à la clairière de ses livres, c'est un vieux pasteur très sage et que j'admire pour sa franchise. Il a dit ceci, il dit, suivre Jésus nous procure peu ou pas du tout de ce que nous réclamons, désirons et espérons généralement. En grande partie parce qu'en tant qu'être déchu, nous demandons mal, dit Jacques. Quand nous prions, nous demandons pour que nos vies roulent sur les roulettes. Alors, pourquoi suivre Jésus? Et où est le réconfort en tout cela? Comment Johnny Erickson peut-elle prétendre trouver une tranquillité dans son âme et une espérance pour son avenir dans un corps déjà paralysé et devant une bataille ardue avec le cancer? Et pire, ils disent qu'il y a 2 ou 3 ans, quand vous êtes quadriplégique, vous ne ressentez rien en bas du cou, elle a repris la sensation en forme de douleur. Et voici ce que je pense serait sa réponse si elle était ici. Je pense qu'elle dirait, je compte sur le fait que Dieu va utiliser tout cela pour me sculpter, pour me façonner, jusqu'à ce que je devienne un chef-d'œuvre avec la capacité d'augmenter le plaisir de Dieu. Je pense qu'elle dirait ça et elle vit ça, on le voit en le regardant aller. Elle a compris le sens de ce passage. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est quoi son dessein? Il fait référence, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et Paul dit, Dieu est capable d'utiliser tout et n'importe quoi pour nous avancer dans ce processus où nous devenons de plus en plus des petits Christ, des gens qui, par notre façon de vivre et d'aimer, font voir la beauté de notre grand frère et son père. Donc je suis convaincu que Simone Veil avait raison dans sa citation. Si nous pensons que le rôle de Dieu est de nous protéger de tout ce qui pourrait nous faire mal, nous passons à côté du christianisme biblique. Et s'il y a quelqu'un qui a compris ça, c'est l'apôtre Paul. Il m'étonne. Il est une autre de ces personnes qui m'abasourdissent par sa réaction devant les souffrances et les difficultés. Je n'ai trouvé que deux photos de lui. Ils sont plutôt rares de nos jours, les photos de l'apôtre Paul. Mais une blague, c'est une blague. C'est pas... okay. Parce que ma pauvre fille qui a 36 ans, si elle est ici, a dit « Ah oui, où est-ce que tu les as trouvés ?» Elle est un peu simple. Mais je vais vous lire deux citations de Paul qui je dois dire que le deuxième que je vais lire tantôt, le troisième, c'est le tremplin vers toute cette réflexion pour moi. Mais le premier, il dit, en Romains, il dit « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. » Finissons avec ça, je suis très heureux, mais continue. « Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, nos tribulations, nos souffrances. Car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance. » Ça veut dire la continuité, la persévérance, l'épreuve à la résistance, l'espérance. Sans la souffrance, vous n'aurez pas ces qualités de la maturité. Et Paul continue, cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Que fait l'Esprit Saint? Il œuvre pour nous libérer de notre égocentrisme, de notre esprit d'indépendance de Dieu. Et Dieu sait qu'il, s'il ne faisait que de nous bénir de la manière que j'aimerais qu'il le fasse, que nous deviendrons les enfants encore plus gâtés. S'il faisait ce que j'aurais tendance à vouloir qu'il fasse. Une autre citation. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà le but encore, petit Christ, transformé. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Donc on pleure beaucoup, on lamente beaucoup. Vous savez que trois quarts des psaumes sont des lamentations. Mais il produit plus tard, chez ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est ce qu'on ressent quand on est avec John Erickson. On ressent cette paix de justice qui règne en elle. Et l'autre citation, une déclaration qui, de nos jours, pourrait lui mériter un petit voyage dans un asile psychiatrique. Et c'est ce passage où j'ai dit, « Wow, une minute, qu'est-ce qui se passe ici ?» Regarde le passage, je l'aime beaucoup. Paul a prié, parce qu'il y avait quelque chose dans sa vie qu'il n'appréciait pas, qui le faisait souffrir. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. » Et il m'a répondu, « Comment ?» Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Donc, Paul dit, je préfère bien donc plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi, et c'est ce qu'il dit après que je vais vous montrer qui m'a dit, il est dingue, est-ce qu'il est masochiste, est-ce qu'il a viré fou? Parce que regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi je me réjouis. Ça veut dire je prends grand plaisir. En quoi te réjouis-tu, Paul? Quels sont tes sujets de réjouissance? Des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul nous dit qu'un jour, nous verrons le résultat de tout cela dans notre vie. de toutes ses détresses, de toutes ses faiblesses, de toutes ses angoisses, de toutes ses pleurs, et nous allons déclarer là, quand on verra le résultat, sans la moindre hésitation, toutes ces choses difficiles et pénibles ont valu la peine en vue du résultat que je vois aujourd'hui. On va dire bravo Seigneur, bien joué. Même si je me plaignais, j'ai pleuré tout le long. Et voici l'endroit où je tire la conclusion que je viens de vous donner. Paul le dit lui-même. Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée en nous. Là, c'est la perspective de lui vers le futur. Mais moi, j'ai dit, quand on sera là, ça va être la même chose. On va regarder derrière, on va dire, en vue de ça, ça a valu la peine. Merci, Seigneur. Et on arrive de voir ça comme avant de temps. Comme Paul, il n'avait pas vu la gloire, mais il avait une idée de ce que ça allait être. Il a dit, quand on va voir ça, on va dire, ça a valu la peine. Paul comprenait la réalité dont parlait Simone Veil. La grandeur extraordinaire du christianisme se trouve dans le fait qu'elle ne cherche pas un remède surnaturel à la souffrance, mais plutôt une utilisation surnaturelle de la souffrance. Que nous puissions aussi la comprendre, et cela avec de plus en plus de conviction. Amen.